France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Ça fait donc 5 mois que cette grève a commencé et qu'elle se poursuit. Pendant la canicule, les urgences sont tenues, mais au sortir de l'été, période de toute façon difficile, les revendications restent les mêmes et les réponses jugées toujours insuffisantes. 217 hôpitaux touchés sur 650 services d'urgence, c'est ce que disent les grévistes et la PHP, nous dit elle. Et au fond, je vous donne le chiffre qu'il nous donne donc. Le taux de mobilisation s'établit à 15% au 20 août dans plusieurs services. La PHP qui dit aussi qu'il n'y a plus de grévistes depuis la mi-juillet. Comme ça, les choses sont dites. De fait, 70 millions ont été débloqués pour une prime de 100 euros par mois quand les aides-soignantes, les infirmières, les médecins urgentistes parlaient eux de 300 euros et de 10 000 embauches. On parle de plus de personnel, de plus de lits, on parle de faire progresser en aval après l'arrivée des patients. Côté ministère, on parle surtout de l'amont, donc tenter aussi de réduire le nombre de ceux qui arrivent aux urgences. L'idée, ce serait d'essayer de faire coïncider les deux. Nous avons déjà fait un téléphone sonne sur ce sujet, précisément juste avant l'été. Aujourd'hui, donc, où sommes-nous? Après l'été, c'est tout de suite. Soyez les bienvenus, bonsoir.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Benoît David, c'est vous le premier. Soyez le bienvenu au téléphone sonne. Bonsoir.
Est-ce que oui, je vous entends très bien.
Ah, ben voilà, nous aussi, on y est.
Je vous entends très bien.
Du coup, je ne savais pas s'il fallait vous appeler Benoît David ou les deux.
Non, je m'appelais Benoît David.
Eh bien, Benoît David, on vous écoute. Allez-y, soyez le bienvenu.
Bonsoir, madame. Oui, je voulais simplement un témoignage exceptionnel à mes yeux. Je suis parisien, intramuros. Et je suis dans une région qui s'appelle le Gard. Je fais du vélo un matin, le 31 juillet, et je tombe tout seul. J'ai une chance inouïe, j'appelle quelqu'un qui vient me chercher et qui conduit à Bagnols-sur-Cèze, ville qui se meurt ou dont on dit les choses les plus infâmes parfois, d'une manière directe. J'arrive à l'hôpital, je vois des bandes partout, en grève, en grève, en grève, en grève. Je tombe tout de suite par une équipe qui me prend en charge et qui me dit, monsieur, on va regarder, rapidement on fait le diagnostic et soit vous partez à Montpellier, on fait un drainage, 9 côtes cassées devant, 7 côtes cassées derrière.
Ah oui, jolie chute quand même.
Ah oui, jolie chute. Ah oui, magnifique. Et nous sommes aujourd'hui le 29 août, hein, à peu près au voiture. En une demi-heure, le médecin et l'équipe, avec une douceur, tendresse, me dit « on vous garde ». Ils me mettent en réa pendant 6 jours, exceptionnel. Je connais, moi, à 68 ans, je n'ai jamais connu l'hôpital, jamais. C'est une chance inouïe, jamais de médicaments, rien, 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 inouïe. Et là, je tombe, je suis cassé moralement, cassé physiquement, avec une douleur, mais énorme. Et du coup, 6 jours, mais pour montrer un exemple, ce que je disais tout à l'heure au bout de 3 jours, ils me disent, est-ce que vous voulez vous asseoir? En rien, hein. Je dis, bien sûr.
Ouais.
Et donc, vous voyez des gestes humains, profondément humains, des femmes de chambre, de service, jusqu'aux médecins praticiens, des gens d'exception. Ensuite, je pars 10 jours, en pneumon.
Alors attendez, Benoît David, pardonnez-moi, parce qu'on ne va pas faire tout votre historique médical, on n'a pas le temps, parce qu'il faut qu'on commence un peu le téléphone sonne. Mais moi, j'ai quand même une question pour vous, si vous me promettez d'y répondre brièvement. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous soyez au fond étonné d'avoir été si bien soigné, en fait. Qu'est-ce qui vous empêchait de penser avant d'y aller, que de toute façon, oui, vous seriez parfaitement pris en charge?
Eh bien, madame, parce que je suis un inconscient, non pas du service public, que je loue, mais j'ai une chance inouïe, c'est que je ne connaissais pas l'hôpital. Donc, comme je n'ai quasiment pas de médecin, pas d'hôpital, et une santé remarquable à mes yeux, eh bien, ça, c'est plutôt, non pas un aspect négatif, pas du tout, au contraire. Et j'ai été tellement surpris par la beauté humaine, profonde, impliquante, généreuse de ces femmes et de ces hommes, que oui, c'est vrai, madame, vous avez raison de penser que pourquoi j'ai réagi ainsi, mais c'est parce que c'est beau.
Mais voilà. On est content pour vous, en tout cas, on est content que vous alliez bien, surtout aussi Benoît David. Merci beaucoup pour ce témoignage qui fera probablement chaud au cœur à ceux qui sont dans ce secteur-là et qui nous écoutent, et peut-être à vous aussi, Inès Gué, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes infirmière aux urgences de l'hôpital La Riboisière. Vous êtes membre du collectif Interurgence. Bonsoir à vous, Thomas Meynier.
Bonsoir.
Vous êtes député de La République En Marche de Charente. C'est vous qui êtes chargé du rapport sur les urgences. Vous avez été aussi médecin urgentiste, et bonsoir à vous, Véronique Julien.
Bonsoir.
Spécialiste santé à France Inter. Je vais revenir sur le témoignage de Benoît David, Inès Gué, l'un après l'autre, en fait, en un mot. Mais effectivement, il y a cette idée, en fait, que il semble ancré dans la tête des gens que ça va mal se passer en arrivant à l'hôpital. Alors que, ben non, évidemment que, et y compris d'ailleurs en grève, puisqu'il est dans le Gard, dans un service en grève, oui, on s'occupe toujours des gens qui arrivent, qui sont tombés de vélo ou autres. Et oui. C'est bien de le rappeler.
Bah déjà, ça fait plaisir un témoignage comme celui-là. Mon analyse là-dessus très rapidement, c'est que nous, nos conditions de travail sont assez exécrables et on le compense par un investissement personnel assez énorme. Et c'est ce qui fait que derrière, des gens comme Benoît David peuvent être contents de leur séjour.
Est-ce que ça vous étonne que le premier réflexe d'un monsieur comme ça se soit de se dire ça va être l'enfer, en fait?
Non, ça m'étonne pas. Moi, je redoute le jour où j'irai à l'hôpital.
À ce point-là, sérieusement? Oui, même dans votre propre service à la Riboisière? Thomas Meignier, ce que vous redoutez si vous tombiez de vélo, est-ce que vous le redoutez aujourd'hui d'aller aux urgences? Et je vais très sérieusement vous poser la même question. Comment se fait-il que d'emblée, un monsieur comme ça qui tombe de vélo pense que ça va être l'enfer pour lui, en fait? C'est bien qu'il y a un problème quelque part.
Parce que on parle systématiquement des urgences par le biais des difficultés, par le biais effectivement de ce qui ne fonctionne pas assez bien. On oublie cependant la qualité de notre médecine d'urgence, la qualité de nos médecins, de nos personnels soignants, qui sont dévoués parfaitement à leur tâche. Si tout a si bien fonctionné pendant l'été, malgré les périodes de canicule, c'est bien que les équipes sont là, répondent de très grande qualité et de façon la plus humaine qui soit. Et ça, c'est un témoignage qui fait vraiment du bien.
On se dit aussi qu'en grève, le service va être dégradé. Or, la grève aux urgences, elle est purement symbolique. Hein. Tout le monde est là, en fait.
C'est comme ça que ça se passe, Inès Gay, pour expliquer aux gens qui, heureusement, n'ont pas eu affaire aux urgences cet été, en soi.
Ouais, bien sûr. En fait,
vous avez un brassard et on travaille quand même, que les choses soient très claires aux yeux de ceux qui nous écoutent.
C'est ça, pour que ce soit clair, c'est un service public. Donc, quand il y a une grève, il y a un service minimum qui est établi. Et il se trouve que le service minimum, c'est le même service que d'habitude. Donc, le temps d'attente est le même.
Alors concrètement, il y a eu des avancées cet été, je citais les chiffres tout à l'heure, 70 millions, 100 euros bruts sur les feuilles de paye, absolument, 100 euros net sur les feuilles de paye. Qu'est-ce qui manque pour vous au collectif Interurgence, Inès Gay, que les choses soient claires, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas réussi encore à se sortir de cette grève qui est probablement l'une des plus longues aux urgences?
Si vous voulez, je vais vous l'illustrer. Moi, j'ai travaillé cette nuit. Il y avait 8 heures d'attente au secteur long. Les urgences sont divisées en secteurs. Le secteur long, c'est celui qui accueille la plupart des personnes âgées. Donc, vous avez 90 ans, vous arrivez aux urgences de la Riboisière pour un problème X ou Y, vous savez que vous allez attendre plus de 8 heures avant de voir un médecin. Moi, j'étais au secteur des urgences vitales. C'est un secteur qui peut prendre jusqu'à 6 patients. On en avait 10. Notre secteur de post-urgence, c'est le secteur d'hospitalisation qui fait tampon entre les urgences et les autres services. Il était plein. Et c'est à savoir que lundi, on a eu 12 hospitalisations sur brancard, c'est-à-dire dans les couloirs des urgences. Et ça c'est plus personnel, mais il y a un patient qui était ivre, et ça c'est des choses qui arrivent tous les soirs, un patient qui était ivre qui a copieusement insulté toutes mes collègues. Bon, ça c'est, on a l'habitude de gérer. Il y a un moment où il a essayé de lever la main sur l'une d'entre elles, un infirmier lui a mis une gifle, il a culpabilisé toute la nuit. Bon, ça c'est un constat que nous on fait à la Riboisière et qui a été partagé par beaucoup de services d'urgence. Tant que ces conditions-là, elles changent pas, ben nous on va rester en grève.
Thomas Meignier, est-ce qu'il y a une réponse La difficulté, c'est y a-t-il une réponse globale ou ne peut-il y avoir que des réponses sur une situation ici, une situation là, une autre là-bas?
On peut faire du en même temps. On peut faire on peut proposer des solutions nationales.
Pardon, excusez-moi.
Avec des solutions qu'on pourra diffuser sur tout le territoire. Et puis, hôpital par hôpital, trouver des solutions concrètes pour répondre à des difficultés très locales. D'ailleurs, on voit bien que certains services, certains hôpitaux sont sortis de la grève après avoir trouvé des solutions à des problèmes bien spécifiques.
Globalement, il y en a plus qui rentrent dans le mouvement que...
9 sites sortis de la grève, c'est les chiffres de la PHP,
Paris,
9, c'est pas beaucoup.
À Paris, il y en a 9, il en reste 14 qui sont encore en grève. Je crois que les discussions sont toujours en cours. Après, le problème est véritablement multifactoriel. Moi, j'ai fait beaucoup d'auditions, je me suis pas arrêté de l'été. J'ai fait beaucoup d'auditions, j'ai rencontré beaucoup de monde, je me suis déplacé sur le terrain, je continuerai, je suis par exemple demain matin à Limoges. On voit bien les solutions, les situations très différentes, et on voit bien surtout qu'on est face à des services d'urgence dont l'utilisation a été complètement dévoyée, qui ont été organisés il y a 25 ans. Et en 25 ans, on ne les utilise pas seulement pour les urgences vitales alors qu'ils n'étaient prévus que pour ça, et la fréquentation de ces services a plus que doublé. Donc aujourd'hui, il faut agir sur l'amont, c'est-à-dire avant les urgences, la médecine de ville. J'avais déjà fait des propositions l'année dernière en ce sens. Je vais en refaire d'autres cette année. Et puis des propositions sur l'organisation des services, sur comment ils fonctionnent au quotidien, et aussi sur l'aval. Je pense que c'est toute la chaîne qu'il faut revoir, parce que en 25 ans, on n'y a pas touché, elle n'a pas été mise à jour, alors que son utilisation a complètement changé.
Mais l'argument de la bobologie, effectivement, de ce qu'on appelle la bobologie, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Effectivement, il y a plein de gens qui sont aux urgences, qui ne devraient pas être aux urgences. Puisque vous m'avez donné des chiffres, Ignace Gay, tout à l'heure, de ce qui s'est passé hier pendant cette nuit, pendant votre garde, combien, honnêtement, parmi ces patients que vous avez vus, auraient pu être réorientés ailleurs s'ils étaient passés par un autre biais?
Alors ça, malheureusement, déjà je suis pas médecin, et en plus c'est pas un chiffre que je peux vous donner, parce que je l'ai pas, il n'existe pas.
Ce que je veux dire, c'est, est-ce que vous avez, vous, le sentiment dans un service d'urgence que oui, si en amont ça se passait différemment, oui, vous auriez moins de gens?
Absolument.
C'était le sens de ma question.
Par rapport à ça, il y a tout un secteur. Il y a énormément de secteurs en amont des urgences qu'il faudrait réévaluer et revaloriser. Par exemple, le secteur médico-social. C'est vraiment l'État s'est énormément désinvesti ces deux dernières décennies de ses missions sociales. Et ce qui fait que quand on est vieux, fou ou pauvre ou les deux ou les trois, on est particulièrement isolé et mal soigné, et on atterrit dans un service d'urgence. Alors que c'est pas, comme dit M. Meunier, la mission première des urgences, mais c'est juste quand on a nulle part ailleurs vers où se tourner, on y va. Je vous prends en hiver à la Riboisière, tous les soirs, on a 25 à 30 personnes qui viennent aux urgences juste pour s'abriter dans la salle d'attente, parce que dehors il fait froid et on crève parce qu'il fait moins 10, ou parce que dehors, c'est pas sécurisé. Donc là-dedans, il y a des gens qui travaillent, juste ils viennent dormir, ils font pas de bruit, et d'autres qui sont un peu fou, un peu alcoolisé, un peu de tout. T'as des gens qui sont en marge de la société et qui ont plus de structures d'accueil à l'extérieur de l'hôpital. Des structures d'accueil, d'hébergement, d'aide sociale.
Je voudrais qu'on écoute Pascal, qui est l'un de vos collègues et qui est infirmier. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Alors moi, ça fait 10 ans que je suis infirmier dans un service d'urgence dans un secteur plutôt rural en Vendée, où on a le même problème. Alors les problèmes, je pense, sont différents en fonction du secteur où on est. Nous, on a le même problème au niveau des médecins généralistes, hein, c'est un désert médical, la Vendée. Par contre, on entend beaucoup parler de nos salaires. Alors effectivement, moi, ça fait 10 ans que je travaille, je fais un week-end sur deux, je fais 25% de mes gardes de nuit, et je gagne 1 700 € net par mois. Donc effectivement, je pense que c'est trop peu, mais nous mettre une prime de 100 € qui n'est pas indexée sur notre salaire, qu'on ne touchera pas à notre retraite, je vois pas trop à quoi ça sert, qu'on peut nous enlever quand on veut, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aux urgences, quelqu'un qui vient pour de la médecine générale, qui vient pour une angine par exemple parce qu'il a mal et qu'il a appelé 2, 3, 4, 5 médecins généralistes et qu'il n'a pas pu avoir de rendez-vous dans la journée, en fait il nous prend pas de temps. Moi il prend 5 minutes à l'orientation, je prends ses constantes, je le mets dans une salle. Le médecin urgentiste, s'il a le temps, quand il a le temps, il va venir le voir 5 heures après. Et ben si ce patient il accepte d'attendre, le médecin il va le voir en 5-10 minutes et puis ce sera terminé, il nous aura pris 10-15 minutes. En fait le problème c'est que nous quand on arrive le matin, il y a entre 20, 25, 30 patients. Et en fait, dans ces 20, 25 patients, il y a 20 patients à hospitaliser. Et depuis la veille à 18h, il n'y a aucune place d'hospitalisation dans les services. C'est ça qu'il faut régler. C'est les places qu'il y a en aval. La situation en amont, de toute façon, elle ne va pas se régler. On ne va pas avoir plus de médecins généralistes tout de suite. On aura peut-être dans 10 ans, mais la population aura augmenté, la demande aura augmenté. Et ce sera pareil, parce qu'on n'augmente pas assez le nombre de médecins généralistes. Il faut arrêter de taper sur les médecins généralistes, parce qu'il y a des problèmes aux urgences. Et surtout, il faut plus de places d'hospitalisation, il faut plus d'EHPAD, il faut que les gens soient mieux traités dans les EHPAD, il faut que les EHPAD aient plus de moyens, parce que les gens aussi qui se dégradent dans les EHPAD, et ben en fait s'il y avait plus de moyens dans les EHPAD, et ben on les enverrait moins aux urgences.
Merci pour ce témoignage, Pascal. C'est pour vous, Thomas Meunier. C'est ce que je disais dans l'introduction sur l'amont et sur l'aval. Effectivement, au bout de la chaîne, ce qui manque, c'est le lit d'hospitalisation. On peut le tourner dans tous les sens, mais c'est ce qui manque. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut augmenter les lits, ou est-ce que là, aujourd'hui, vous vous dites, en l'état, non, on peut pas?
En fait, il y a plusieurs choses. Je voudrais quand même répondre très rapidement sur l'amont, parce que effectivement, le patient qui a l'angine n'y prend pas très longtemps.
Mais on reviendra à la balle.
Mais aucun problème. Mais plus il y en a, plus mis bout à bout, ça finit par prendre du temps. Effectivement, je blâme absolument pas les médecins généralistes qui font déjà le plus gros de ce qu'on appelle les soins non programmés, c'est-à-dire la demande de soins urgente. On les aide d'ailleurs avec la loi qu'on a votée en juillet à s'organiser, on leur donne des moyens pour qu'ils puissent s'organiser un peu différemment, dégager des marges de manœuvre. Et puis typiquement, l'exemple de l'angine, à partir de janvier 2020, l'année prochaine, si vous avez mal à la gorge avec un peu de fièvre, vous pourrez aller voir votre pharmacien qui, avec quelques questions, un test, pourra vous donner le traitement dont vous avez besoin. C'est moi qui l'ai mis dans la loi, ça. Donc c'est sans passer par des médecins, trouver d'autres solutions, parce qu'effectivement, le temps qu'on forme davantage de médecins avec la suppression du numerus clausus, on aura ces nouveaux médecins qu'en 2029. Donc d'ici là, on trouve des solutions, notamment avec les pharmaciens. Je peux vous prendre aussi l'exemple des entorses de cheville. Aujourd'hui, vous tordez la cheville sur le trottoir, vous pouvez pas aller voir le kiné qui pourrait vous traiter. On peut effectivement envisager que on débloque ce verrou-là pour que vous puissiez aller voir le kiné directement sans passer par les urgences. Il saurait très bien vous prendre en charge parce que les entorses de cheville, typiquement, c'est 2 millions des 21 millions de passages par an aux urgences.
Dont acte, et vous avez raison, j'imagine que sur une entorse de cheville, c'est pas Agnès Gay qui nous contredira, mais quand on hospitalise, que c'était là le problème que voulait mettre Pascal, sur lequel voulait pointer Pascal, quand on hospitalise et qu'on peut pas hospitaliser, comment on fait? Est-ce que vous lui répondez, on peut augmenter le nombre de lits?
Il faut d'abord se poser la question.
Ça doit vouloir dire non.
Non, mais je n'ai aucun tabou. En ce moment, je discute de beaucoup de choses. Je discute de l'organisation de l'amont, de l'organisation des services, de peut-être réfléchir à de nouveaux financements des services d'urgence. Je discute aussi de l'aval. Quelque chose que je faisais avant d'être élu dans mon service, parce que je suis urgentiste à l'hôpital d'Angoulême, c'est que par exemple, pour les lits de gériatrie, chaque jour, on s'était organisé avec le service de gériatrie pour qu'il nous libère le nombre de lits dont on avait besoin. Parce que ça peut paraître étonnant, mais il n'y a rien de plus prévisible qu'un service d'urgence dans son activité. Donc il y a des choses à faire avec les services d'urgence pour organiser ça. Bien souvent, en réalité, on a assez de lits, il faut juste s'organiser avec les services d'étage. Ça demande un peu d'organisation entre les urgences et le reste de l'hôpital, mais en fait, il faut d'abord se dire, il faut qu'il y ait aussi un changement de paradigme et que à l'hôpital, on se dise qu'un patient qui est aux urgences, ce n'est pas un patient des urgences, mais un patient de l'hôpital. Et c'est l'hôpital qui doit s'organiser pour le prendre en charge.
Oui, mais à l'hôpital, on est plutôt dans la tendance ambulatoire et fermeture de lits quand même, faut pas se mentir.
Alors, il y a eu beaucoup de fermetures de lits depuis, et ça date pas de 2 mois ou de 2 ans, mais de décennies.
Non, mais il y a de plus en plus de monde aux urgences et de moins en moins de lits dans les hôpitaux.
On est probablement allé au bout de cette logique-là, ça c'est certain. Après, je pense qu'il faut regarder au cas par cas et justement voir aussi, il y a des lits qui restent inoccupés, que peut-être on pourrait réorienter vers de la médecine post-urgente, polyvalente, qui pourrait régler vraiment.
Il y a des lits non occupés dans les hôpitaux, vous dites?
Il y a des gens sur les brancards et des lits non occupés?
On doit avoir un peu de marge de manœuvre à débloquer.
Ignace Gay, est-ce qu'à la Réboisière, c'est débloquable? Il y a cette marge de manœuvre? Vous connaissez
Je pose la question, parce qu'on nous a parlé d'enveloppe pour cet été. Il y a 2 services de médecine qui ont fermé à la Réboisière cet été, alors qu'on a toujours des hospitalisations sur brancards.
Oui, alors là, je pense qu'on est typiquement dans le cas des périodes estivales où il faut bien permettre aux équipes soignantes de partir en vacances pour se reposer. Et de fait, on est obligé de réduire la capacité en lit. C'est aussi nécessaire pour que les équipes puissent
travailler. On est obligé de fermer parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Enfin, parce que on devrait avoir plus de personnel et on n'arrive juste pas à le recruter.
Il y a un certain nombre de problèmes de recrutement. Effectivement, par un défaut d'attractivité, je pense que la prime telle qu'elle a été proposée par Agnès Buzyn répond en partie à ce problème. Après, moi, j'ai rencontré, par exemple, quand j'ai visité les urgences de Perpignan, la cadre de santé, c'est-à-dire la personne qui organise l'équipe d'infirmiers, m'a dit qu'elle avait des problèmes de recrutement pour la période d'été, tout simplement parce que les sorties d'école d'infirmiers arrivaient trop tard pour qu'on puisse les recruter dans l'été. Donc, en fait, on a des gens qui sont prêts à travailler, juste ils sortent trop tard de l'école pour pouvoir les embaucher pour l'été. Donc ça, c'est des petites mesures, des petites choses très techniques qui pourraient mettre un peu d'huile dans les rouages.
Allez, je veux pas qu'on oublie le standard. C'est Catherine qu'on écoute. Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir.
Pardon de vous avoir fait patienter si longtemps, Catherine.
Oh, c'est pas grave.
On se croirait aux urgences.
Oui, tout à fait. Bah, justement, j'y étais hier soir et j'ai été méchamment mordue par un chat et je me suis demandé s'il fallait que j'aille aux urgences. Donc,
quelle heure il était?
Il était 11h du soir. D'accord, entre 10h30 et 11h.
D'accord, ok.
Et je pouvais pas aller voir un médecin, je saignais beaucoup, j'ai été mordue à la main. Donc je suis quand même allée aux urgences et j'ai attendu de 11h du soir jusqu'à 5h du matin. J'en suis sortie à 5h, donc j'ai dû être reçue par un médecin vers 4h du matin. Et entre-temps, j'ai vu toute la misère du monde parce qu'effectivement, il n'y a pas que des gens qui ont eu comme moi des accidents. Il y a des gens qui sont en souffrance autrement. Et puis voilà, quoi. Mais bon, par contre, le personnel a été génial.
Combien vous étiez hier, Catherine, pour avoir une idée? Pour avoir attendu aussi longtemps?
Une bonne trentaine de personnes, je pense. Une bonne trentaine de personnes et... il y a encore des gens qui sont arrivés après. Enfin, ouais, ça, c'est un peu un flux ininterrompu, hein, finalement.
J'ai toujours pensé qu'il fallait se méfier des chats. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage qui nous permet d'avancer. Merci beaucoup, Catherine Inès Gay. On arrive entre 22h et 23h et on est pris en charge à 5h du mat. Parce qu'effectivement, c'est pas grave. On voit bien qu'il va rien se passer de grave auprès de cette dame. Mais du coup, elle y passe la nuit, effectivement.
Ouais.
Atypique, on va dire, de ce que vous voyez, vous, de ce que vous vivez, vous.
Assez typique. Bah, je veux dire, si on avait plus de médecins, elle aurait été vue plus vite, je peux vous dire ça déjà. Y a aussi y a un problème d'éducation, et on en parlait tout à l'heure, de structure derrière. Donc si elle a été mordue par un chat et qu'elle n'a pas su vers où se rediriger, c'est qu'elle ne savait pas trop quoi faire, déjà.
C'est la question que j'allais poser, en fait. En soi, il est 23h, il est Thomas Meynier. Moi, je me fais mordre par un chat à 23h. Sérieusement, où je vais, en fait? Qu'est-ce que je fais?
Typiquement, là, je sais pas où madame habite, mais les gens n'ont pas forcément le réflexe du 15. Ils pensent que c'est fait pour l'urgence vitale, l'infarctus ou d'autres choses. Mais en fait, à cette heure-là, il y a un médecin généraliste qui est au bout du fil et qui peut donner des conseils et qui peut orienter et organiser une prise en charge. Typiquement, vous faites mordre par un chat à 22h, vous ne savez pas quoi faire. Il faut faire le 15. Et là, vous aurez un conseil, quelqu'un qui vous dira quoi faire et qui pourra même vous orienter vers le médecin généraliste de garde, parce que il y a des difficultés dans la permanence.
Ça, hein.
Non, mais il y a des difficultés dans la permanence de soins, mais ça fonctionne quand même globalement. Et typiquement, plutôt que d'aller aux urgences et attendre jusqu'à 5h du matin, il y avait probablement un médecin généraliste qui était de garde pas très loin jusqu'à minuit, qui aurait pu rendre service à cette patiente.
Catherine, vous êtes encore là ou pas? Est-ce que vous êtes encore là?
Oui,
Qu'est-ce que vous avez le réflexe de faire le 15? Est-ce que vous avez préféré y aller directement?
J'ai pas osé faire le 15 parce qu'effectivement, pour moi, c'est pour les choses très graves. Quand j'ai posé la question au médecin, elle m'a dit que j'avais bien fait de venir aux urgences.
Parce qu'ils ont regardé s'il y avait une infection, une allergie, des choses comme ça, j'imagine,
ouais,
en fait.
Voilà, ouais. Et puis c'était vraiment méchant, quoi. Donc, voilà.
Merci beaucoup. Non, mais merci. Et merci de cette précision. Thomas Meynier, vous vouliez rajouter quelque chose?
Ouais, si je peux répondre, il y a un petit peu le côté docteur aussi. Mais effectivement, elle a très bien fait de consulter. En fait, elle avait besoin de voir un médecin, mais pas nécessairement un urgentiste. Et le 15, là, on le voit bien, elle n'a pas osé l'appeler alors qu'elle y était tout à fait.
Moi, je trouve ça intéressant.
Adaptée.
On n'ose pas déranger le 15, mais on ose déranger les urgences, en fait. Moi, je trouve ça vraiment.
Et il y a probablement une réflexion à mener pour développer les appels vers la régulation. Parce que finalement, où que vous soyez, qu'un médecin généraliste ou pas, à proximité, le 15 peut toujours vous répondre.
Inès Gay, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais ajouter une expérience par rapport au 15. Ce qu'ils sont en énorme difficulté, déjà parce qu'ils n'ont pas assez de personnel, et que le temps d'attente avant de pouvoir répondre peut éventuellement s'allonger. Et notamment depuis l'affaire de Naomi Muzunga, qui est malheureusement décédée.
Il y a une crise de confiance, vous voulez
dire? Ils ouvrent le parapluie. C'est-à-dire qu'en termes de responsabilité, là, le cas est assez simple, mais en termes de responsabilité, quelqu'un qui dit j'ai une douleur thoracique, ils s'embêtent pas, ils envoient un moyen. Parce que derrière, il y a des risques judiciaires qui sont importants.
On se souvient du cas de cette jeune femme qui est morte parce qu'elle avait été effectivement mal conseillée, dirigée.
Et donc les urgences, en fait, récoltent la plupart des patients que trie le 15. Enfin, alors ils font un travail incroyable, ça je peux pas le nier. Ils orientent autant que possible vers les permanences en journée. Mais voilà, il y a énormément de patients qui sont vers qui on envoie des médecins. SOS Médecins, les urgences médicales de Paris, qui sont des consultations payantes.
Justement, voilà un médecin généraliste dont j'aimerais l'avis sur la question. Bonsoir Raphaël.
Oui, donc je suis médecin généraliste dans la région lyonnaise. Et en fait, je voulais intervenir sur un aspect dont j'entends rarement parler à la radio quand on parle des urgences, c'est l'aspect médico-légal. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble actuellement, en 2020, qu'il y a un niveau d'exigence de la population par rapport à la prise en charge qui nécessite quand même finalement des plateaux techniques importants, et que les urgences vitales sont des fois près de le masque de symptômes tout à fait discrets, et que on a un peu un préconçu sur l'idée que les gens vont bêtement aux urgences alors qu'ils ne devraient pas y aller. Mmh. Et que finalement, à notre époque, on peut comprendre que les gens, devant un symptôme nouveau qui peut paraître anodin pour quelqu'un, puissent aller aux urgences. Et de tout vouloir renvoyer vers la médecine de ville, en pensant qu'un médecin généraliste, tout seul dans son cabinet, avec son stéthoscope, puisse prendre en charge l'ensemble de cette population qui va actuellement aux urgences à la place des urgentistes, est pour moi une idée fausse, mmh. voire une idée folle, parce que c'est pas forcément une mauvaise chose qu'il y ait plus de gens qui aillent aux urgences. Par contre, il faut développer, à mon avis, la coopération entre la médecine de ville et l'hôpital de manière beaucoup plus forte. Moi, j'ai vécu en tant qu'interne un service d'urgence en pédiatrie dans l'Île-de-France, où en fait des généralistes venaient prendre des gardes au sein des urgences pour en fait faire des consultations à côté des urgentistes et prendre en charge les simples otites, les simples angines, et finalement décharger les urgentistes d'un travail inutile. Et inversement, quand il y avait une erreur d'orientation à l'accueil et que finalement une angine était plus grave que prévu ou cachait une maladie plus sévère, le généraliste avait la possibilité de basculer tout de suite son patient vers un plateau technique qui pouvait prendre en charge son patient. Donc dire on va rebasculer tout vers le généraliste de ville qui peut tout régler à la place des urgentistes, à mon avis c'est une vraie erreur en termes de prise en charge de la population.
Et Raphaël, laissez-moi vous poser la question comme ça. Non, je vous en prie, laissez-moi vous la poser comme ça, cette question. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, de renvoyer précisément des patients aux urgences parce que vous, dans votre cabinet, vous vous dites « moi, je suis pas sûr, donc j'aime autant que vous alliez aux urgences ». Est-ce que c'est quelque chose qui
est... Ça fait partie de la pratique quotidienne des médecins. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, un des rôles principaux du médecin généraliste, c'est le repérage précoce des urgences. C'est-à-dire il y a beaucoup d'urgences vitales. Qui prennent le masque de symptômes tout à fait anodins au début. Et notre rôle dans le système, c'est de repérer ces symptômes-là, d'adresser les gens aux urgences au bon moment et pas forcément de tout faire tout seul. Et donc, c'est vrai qu'il faut développer cette coopération et à mon avis même créer finalement des consultations à côté, c'est-à-dire de séparer en permanence cette médecine de ville et l'hôpital et de créer cet écart même géographique, pour moi n'a absolument aucun sens actuellement. Et je crois pas qu'on doit opposer les deux métiers, on doit les rapprocher et on doit créer de la coopération plutôt que de dire que c'est les généralistes qui vont régler le problème des urgences.
Merci.
C'est une vraie erreur.
Merci beaucoup Raphaël pour votre témoignage. Thomas Magnier là-dessus, et je me souviens qu'on a déjà eu cette conversation sur le rapprochement effectivement médecine de ville et hôpital, mais j'ai envie de dire, bien sûr, ça tombe
absolument
du bon sens. Pas à toutes les heures.
Pas encore à toutes les heures, mais il a absolument, le confrère a absolument raison. Il n'est pas question de renvoyer tout vers la médecine générale, mais il faut vraiment développer le partenariat, l'exercice mixte d'ailleurs, des généralistes qui travaillent dans leur cabinet et qui viennent donner du temps aussi à l'hôpital. C'est ce qu'on est en train de faire dans les différentes réformes qu'on a lancées. La ministre, par exemple, a créé 400 postes pour des jeunes qui travailleraient et à l'hôpital et en médecine de ville. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, il faut probablement aller plus loin.
Véronique.
Il y a l'idée aussi d'un tri que pourraient faire les médecins généralistes. Ils pourraient être le premier interlocuteur qu'on appelle éventuellement par téléphone et qui ferait un premier tri, un peu ce que fait le 15, mais les gens ne le savent pas finalement.
J'avais proposé l'année dernière, et je maintiens cette proposition, d'un numéro unique santé que vous pourriez appeler et pour les urgences vitales et pour les problèmes de santé.
Un 911 à l'américaine, je me souviens
alors,
de ça.
Alors, c'est plus le numéro santé. Il n'y a pas la police, par exemple, dedans. Mais où vous avez et l'urgentiste et le généraliste qui sont là pour vous répondre, et on vous adresse vers le meilleur médecin par rapport aux signes que vous avez pour répondre à votre problématique. Après, ce qu'il y a derrière aussi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que les généralistes sont là pour détecter les urgences. Le problème aujourd'hui, c'est que, par exemple, quelqu'un qui a mal dans la jambe, le généraliste pense qu'il a une phlébite. Aujourd'hui, la difficulté du généraliste, c'est qu'il ne peut pas l'adresser vers le radiologue pour trouver une échographie dont il a besoin pour faire le diagnostic. Donc, en fait, il l'envoie aux urgences. En fait, le patient n'a pas du tout besoin des urgences, il a juste besoin de l'échographie. Donc il faut aussi qu'on trouve des moyens pour que le lien direct entre le généraliste et le radiologue puisse se faire, parce qu'on l'a perdu en 10 ans.
Julien, bonsoir, vous avez été très patient, pardon.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, Julien.
Eh ben, écoutez, pour réagir au propos du médecin, moi je veux bien, mais nous on vient de passer un été à Saint-Nazaire catastrophique. On reçoit pas, voilà, on n'a pas eu les réponses de la ministre qui disait que pas de brancards, pas de patients sur les brancards. Nous, on en a eu entre 15 et 25 par jour. Voilà, la solution des médecins, nous, c'est déjà mis en place depuis au moins 5 ans à Saint-Nazaire. Donc, il y a SOS Médecins qui intervient. Il y a des CAPS. les centres d'accès aux permanences de soins. Il y a quand même beaucoup de choses de mise en place dans notre département et malheureusement, malgré ça, nous avons beaucoup de beaucoup d'entrées aux urgences qui se multiplient, qui après les gens restent des heures, voire des nuits, sur des brancards. Qu'est-ce qu'on fait? On nous avait dit on vous donnera des moyens pour cet été. On les a pas eus. Enfin, nous on les a eus, mais en gros on a deux lignes de SMUR, donc deux moyens d'intervention qui sont nécessaires dans notre département, notamment dans cette période. Et malheureusement on nous dit on vous donne de l'argent, mais en fait cet argent a comblé le déficit pour le support 2. Donc
Julien, on vous entend de loin, en fait. C'est un peu compliqué de vous entendre, mais on a bien compris que vous étiez infirmier urgentiste, vous aussi, et que vous aviez le sentiment que les mesures qu'on vous a proposées n'étaient pas suffisantes. Thomas Meynier, ce que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce qu'il reste une marge de manœuvre, en fait? Je sais que vous allez rencontrer le collectif interurgence, enfin vous, que la ministre va rencontrer, pardon, le collectif interurgence. Est-ce qu'il reste une marge de manœuvre?
Il faut qu'on en débloque, ça c'est sûr. On en a trouvé en amont, en travaillant avec les médecins généralistes dans la dernière réforme. Je suis en train, moi, d'y travailler pour l'intérieur de l'hôpital et sur Laval. Moi, juste avant d'entrer dans votre studio, j'étais avec la ministre pour lui faire de premières propositions. Je vois le collectif mardi prochain, donc je suis en train de rencontrer tout le monde et de tester des idées, de proposer des solutions. Je pense qu'on a, enfin j'aurai de vraies propositions à faire dans les prochaines semaines pour améliorer la situation à court, moyen terme. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est qu'on a un problème de système qui est complètement désorganisé, les urgences en particulier, qu'il faut remettre un peu de vertu dans tout ça. La tarification à l'activité a été dévastatrice aussi aux urgences, et qu'il faut, par des moyens financiers notamment, aider à réorganiser au mieux les services.
Donc c'est des effectifs, c'est de l'argent, c'est ça la clé dans quelques jours?
On doit travailler, il y a des questions d'effectifs, il y a la question de comment on utilise mieux les moyens qu'on a, tout ça, mais vous me permettrez d'en parler d'abord au collectif mardi prochain,
on va pas vous parler au micro. On va pas faire la fausse réunion maintenant, mais vous vouliez ajouter quelque chose, Inès Gué, allez-y, bien sûr.
En effet, on parle d'argent et c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui va. Enfin voilà, il faut débloquer des moyens. Il faut arrêter de parler de dépenses de santé. Enfin, tout ça, c'est des gains. Donc, il faut arrêter de radiner sur la santé de notre population et investir dans l'hôpital public. Il y a des milliards d'années de sous-investissement à rattraper. Derrière ça, moi, je rajouterais un avis assez personnel sur la mission que vous êtes en train de mener avec M. Carli, c'est que d'un côté, il y a beaucoup d'espoir. Enfin, on espère vraiment que vos propositions elles vont être suivies, intéressantes, qu'il va vraiment y avoir des moyens derrière. Et de l'autre, enfin, moi, je suis assez cynique. Je me rends compte que la vis n'arrête pas d'être serrée de tous les côtés, surtout au niveau social et médical, et médico-social. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir un énième rapport Covid et qui ne sera pas suivi comme les 5 ou 6 derniers.
À vous de la faire mentir, Thomas Meynier, lorsque vous aurez rencontré le collectif.
Oui.
Je voudrais qu'on écoute David, qui nous attend depuis longtemps. Bonsoir, David.
Oui, bonsoir. Merci de prendre ma question.
Allez-y.
Je suis médecin hospitalier. J'en profite pour faire un coup de chapeau à mes collègues urgentistes, qui doivent effectivement en baver pas mal aux urgences générales. Et je voulais poser une question sur leur sentiment sur la réforme de l'internat qui a eu lieu qui est effective depuis 2 ans. Sachant que les internes font, comme les médecins urgentistes, les infirmiers, les aides-soignants, tourner les services d'urgence de façon vraiment prégnante. Et depuis qu'on a cette réforme, en fait, cette réforme incite, ou plutôt oblige les internes à faire la plupart de leurs stages dans les gros centres universitaires, au détriment des hôpitaux périphériques. Et il y a beaucoup de services de médecine d'urgence qui souffrent de cette pénurie de main-d'œuvre, puisque les internes ne vont plus dans les hôpitaux de périphérie, ne vont plus dans les services d'urgence de périphérie, et du coup, il y a beaucoup moins de monde sur les listes de garde, et c'est des surcroîts de travail pour les urgentistes. Donc je voulais savoir si pour eux c'était une réalité, et s'ils pensaient que cette réforme avait intérêt à se pérenniser ou non.
Merci beaucoup pour votre témoignage, David. Vous voulez répondre, Ignace Gay, ou pas? Est-ce que ça a changé quelque chose réellement? Vous le sentez ou pas?
Ben moi, je suis désolée, je travaille dans un gros CHU dans lequel on a des milliards d'internes qui font tourner la machine et qui sont misérablement payés par rapport au travail qu'ils fournissent. Je suis désolée de l'annoncer.
C'est
là.
Plutôt dans les petits hôpitaux,
Là, on parle des petits hôpitaux, ouais, je laisse Monsieur Meunier.
Thomas Meunier.
La réforme a de gros avantages sur bien des aspects. Elle a aussi des inconvénients. Clairement, il y a un sujet pour remettre des internes et des jeunes médecins tout juste formés dans les hôpitaux qu'on appelle périphérique, mais les hôpitaux de recours, en fait, les hôpitaux qui ne sont pas des CHU. Il y a aussi l'intérêt de revoir un petit peu ce qu'on appelle les maquettes, c'est-à-dire là où les jeunes doivent passer en stage, parce qu'aujourd'hui, on va former des urgentistes qui, avec cette nouvelle réforme, ne seront pas allés en médecine générale, ce qui est quand même un problème de ne pas connaître la vraie vie de la médecine générale quand on est aux urgences. Là encore, ça fait partie des choses que je suis en train de travailler.
Tiens, un dernier appel, il est pour vous, c'est une question directement vers vous, Thomas Meunier. Bonsoir Vincent.
Bonsoir, eh bien écoutez, c'est très rapide. Ma question est donc pour Monsieur Thomas Meunier. Je voudrais savoir, s'il n'avait pas été élu député, est-ce que lui, comme médecin urgentiste et praticien hospitalier, donc actuellement il aurait été au travail, est-ce qu'actuellement il aurait été en grève?
Merci Vincent. Thomas Meunier.
On m'a déjà posé cette question, il y avait déjà eu des mouvements de grève avant que je sois élu, je n'avais jamais fait grève et j'étais toujours au travail. Je comprends tout à fait le mouvement de grève qui est en place. Si je me suis engagé en politique, c'était aussi parce que je connaissais toutes les difficultés du quotidien aux urgences et dans notre système de santé et que je voulais le changer de l'intérieur.
Mais vous ne seriez pas gréviste, ça veut dire que vous ne pensez que cette manière d'interpeller la ministre n'est pas la bonne, c'est pour
Non, c'est une manière tout à fait... le droit de grève est constitutionnel, j'ai pas de sujet là-dessus.
Mais en l'occurrence, les médecins ne sont pas en grève, hein. C'est le paramédical qui est en grève. Hein.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. À ce jour, les urgentistes médecins soutiennent le mouvement, mais ne sont pas grévistes.
Est-ce que vous auriez mis un badge de solidarité
Et je travaille beaucoup, aussi bien avec les médecins urgentistes qu'avec tous les personnels soignants des urgences, pour trouver des solutions ensemble.
Donc vous auriez mis un badge de solidarité quand même. Donc si vous en avez un, Ignace Gay, vous pouvez le mettre sur la veste de Thomas Meunier.
Mais on va travailler ensemble à trouver des solutions. C'est ça qui compte.
Qu'est-ce que vous en dites, vous, Ignace Gay, parce qu'on l'a à peine évoqué, de ces soit un 15 bis, soit un autre niveau de numéro de téléphone. C'est des solutions qu'on entend ici, là. On nous parle du modèle danois, qui est effectivement pas celui qui est très loin de notre façon de penser à la française, ce qui est assez juste. Mais l'idée d'un autre niveau de numéro de téléphone, est-ce que ça vous semble une bonne idée ou pas?
Non, c'est vraiment une très mauvaise idée. Bon, après ça, je pense que M. Carly l'avait déjà étudié dans un rapport précédent. Ça apporterait à peu près 8 millions d'appels en plus. Et il faut savoir que pour les traiter, il faudrait 500 médecins et 1000 permanents au téléphone pour traiter ces appels, et on est déjà en déficit de personnel, donc je sais pas où c'est qu'il pourrait être trouvé. En plus de ça, c'est un problème de culture. Enfin, je veux dire, on n'a pas en France la culture de l'appel. Enfin, déjà, quand vous appelez, quand des personnes précaires appellent le 115, quand elles peuvent le faire, elles sont refoulées. Donc, là, l'accès, enfin, je veux dire, il y a un problème d'accès au téléphone, donc toutes les personnes précaires pourraient pas y arriver. Il y a des problèmes de langue. Ça a généré énormément d'agressivité auprès des gens qui se présenteraient aux urgences d'eux-mêmes et qui se feraient, refuser l'entrée, ça poserait le problème de la douleur thoracique qui vient aux urgences sur ses pieds et à qui on dit non, appeler tel numéro de téléphone, qui repart, qui fait son infarctus à la maison. C'est la porte ouverte à beaucoup de problématiques.
À condition qu'on ne conditionne pas l'entrée aux urgences au coup de téléphone, je pense que le coup de téléphone peut être un vrai plus. Et effectivement, ça nécessite des embauches de médecins et de permanenciers de régulation. Je crois que pour le coup, ça serait des embauches utiles.
Mais il faut les trouver.
Voilà. Eh ben, écoutez, ce sera l'occasion de revenir sans doute parce qu'on n'a pas fini avec cette histoire. Merci beaucoup. Merci à tous encore une fois pour vos nombreux appels. Dans un instant, c'est Laura Adler sur France Inter, comme tous les soirs. Pour l'heure, il est 20h.